si timide et si fragile.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Éloane.
Bonjour Juline, bienvenue à tous les auditeurs et auditrices.
Nous proposons une émission spéciale. Les élèves de 4e 6 du collège Yvon Moindranda nous parlent du cyberharcèlement.
Et on commence tout de suite avec le micro-trottoir enregistré par Naomi et Anna Mathilde.
Quelles sont vos idées pour stopper le cyberharcèlement ?
Déjà, la priorité, c'est le contrôle parental. Voilà, je pense que c'est très important la discussion entre enfants et parents.
Moins publier de choses aussi sur les réseaux sociaux qui peuvent vous faire du mal et vous impacter.
Donc je mettrais un âge déjà 18 ans, déjà rien que pour les réseaux sociaux, ça serait déjà pas mal.
Mais il faut mettre des restrictions matérielles qui existent pour éviter l'accès à certaines personnes nuisibles et à des personnes qui n'auraient pas accès en fonction de leur âge.
J'encouragerais dans un premier temps tous les parents à bien réfléchir avant d'offrir un téléphone portable, sensibiliser les élèves à l'impact et au poids des réseaux sociaux et puis peut-être travailler sur des choses qui semblent être peut-être un peu vieux pour vous, mais la gentillesse. Apprenez peut-être à avoir plus de gentillesse entre vous.
Je pense qu'il faut déjà que les réseaux sociaux soient plus durs, plus sélectifs, peut-être recruter plus de personnes qui contrôlent les messages, même les messages privés.
Il faudrait limiter l'accès aux réseaux sociaux, donc encadrer auprès des jeunes, et des moins jeunes du reste, le temps sur les portables. Il faudrait que les parents contrôlent ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux et que les jeunes ne soient pas laissés seuls sur les réseaux.
Merci à Naomi, Anna Mathilde et aux habitants qui ont bien voulu répondre.
Philippine, Lina et Anas nous parlent maintenant des différents types de cyberharcèlement.
Au collège, vous savez que Sam a été victime de revenge porn.
Mais le revenge porn, c'est quoi, Philippine ?
Ça consiste à publier des photos et des vidéos intimes d'une personne sans son consentement pour se venger d'elle.
C'est n'importe quoi, la pauvre, elle doit être gênée.
Je connais cette histoire, vous savez que depuis, Sam a été menacé de le tuer.
Les menaces de mort, c'est interdit par la loi. Les personnes peuvent porter plainte et elles risquent 5 ans de prison.
Le revenge porn aussi, c'est interdit par la loi.
Elle aurait dû déposer plainte à la place. Elle serait tranquille.
Oui, mais ce n'est pas évident d'en parler à nos parents.
Heureusement, l'application ou le numéro de téléphone 3018 peuvent nous aider dans ces cas-là. En parlant de cyberharcèlement, je me rappelle qu'en intervention, j'ai appris que le sexting est la forme de cyberharcèlement la plus utilisée en ce moment.
Oui, et apparemment, les filles en sont le plus victimes.
Mais qu'est-ce que c'est le sexting exactement ?
C'est quand tu envoies des photos ou des vidéos de personnes dénudées à quelqu'un sans son consentement.
Je connais plein de copains qui ont reçu ce genre de contenu, c'est choquant.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il faut immédiatement bloquer la personne ou signaler son profil d'utilisateur.
Peut-être être ami aussi seulement avec des gens qu'on connaît dans la vraie vie.
Personne ne doit voir quelque chose qu'elle n'a pas envie de voir.
Oui, on peut aussi pré-porter plainte pour ça aussi. En France, quelqu'un qui envoie une photo intime sans consentement risque 750 euros d'amende et jusqu'à 1500 euros si l'image est envoyée à un mineur de moins de 15 ans.
Donc, c'est comme quand tu reçois des insultes ou des moqueries sur un groupe, tu dois garder des copies d'écran, quitter immédiatement le groupe et en parler à un adulte.
Si on veut que ça change, il faut en parler.
Merci à eux.
Honorine, Lou et Laureline abordent le bon côté des choses.
Oui, elles nous parlent des solutions contre le cyberharcèlement. On les écoute.
Bonjour Lou, connais-tu les différentes solutions contre le cyberharcèlement ?
Bonjour Laureline. Oui, par exemple, si on reçoit des messages insultants ou des menaces, il faut porter plainte contre l'auteur au commissariat de police ou la gendarmerie la plus proche. L'injure est punie par la loi, qu'elle soit publique ou privée.
Ok. Et est-ce que tu connais le montant d'une amende pour le cyberharcèlement ?
Non, je ne sais pas du tout. Honorine, t'as une idée ?
Oui, j'ai même la réponse. Le cyberharcèlement est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en France.
Mais c'est beaucoup ! Peut-être que si les harceleurs le savaient, il y aurait beaucoup moins de cas.
Mais Laureline, que peut faire une personne qui a reçu une vidéo à caractère sexuel ?
Il faut qu'elle enregistre le message immédiatement, qu'elle bloque la personne et la signale sur la plateforme de discussion.
Et si c'est des photos ?
Pareil, enregistrer et signaler tout de suite la situation. Il y a même des sites pour le faire, par exemple cybermalveillance.gouv.fr ou le 3018.
Et le 3018, c'est quoi ?
Le 3018, c'est une application contre le cyberharcèlement où tu peux rester anonyme pour témoigner ou porter plainte contre le harcèlement et le cyberharcèlement.
Mais sans passer par des applis, que peut-on faire ?
Parler, tous les professionnels le disent. Prévenir tes amis, des personnes de confiance. En plus, tu as le droit à l'image et à l'oubli sur Internet. Les photos ou vidéos diffusées contre ta volonté doivent être effacées.
Mais c'est quoi le droit à l'image et à l'oubli ?
Le droit à l'oubli, c'est demander aux responsables du réseau social d'effacer tout le contenu de la victime de cyberharcèlement. Le droit à l'image permet de donner son autorisation pour que tu apparaisses en ligne, en photo et en vidéo, même ta voix ou seulement une partie de ton corps. Quand on est mineur, ce sont les parents qui la donnent ou non.
Ok, merci de m'avoir éclairé sur ce sujet.
Oui, c'est important. Retenons surtout que si on veut éviter de voir des photos intimes de nous circuler sur les réseaux, il ne faut jamais envoyer ces photos personnelles à qui que ce soit. Même une personne en qui on a confiance à un moment donné. Jamais.
Il faut aussi éviter de poster sur les réseaux sociaux des choses qui pourraient nous porter préjudice plus tard, comme des images de nous faisant la fête.
Merci à Honorine, Lou et Laureline.
Mais Juline, nous aussi on a participé.
Mais oui, on vous propose de participer à un petit jeu. Vous avez deviné le thème ?
Bien sûr, c'est sur le cyberharcèlement.
C'est parti ! Nous vous proposons un quiz sur le cyberharcèlement et particulièrement les risques des réseaux sociaux.
On pose une question, vous avez quelques secondes pour y répondre.
Et bien sûr après, on vous donne la bonne réponse.
Attention, c'est parti, première question.
Est-ce que les réseaux sociaux sont responsables du cyberharcèlement ? Vrai ou faux ?
Faux.
Les réseaux sociaux ne sont pas responsables du cyberharcèlement, mais ils l'amplifient grandement et l'aggravent. Deuxième question.
Peut-on se faire cyberharceler autrement que par les réseaux sociaux ? Vrai ou faux ?
Vrai.
On peut aussi se faire cyberharceler par mail, mais cela reste minoritaire par rapport au harcèlement sur les réseaux sociaux. Troisième question.
Sommes-nous vraiment anonymes sur Internet ? Vrai ou faux ?
Faux.
On laisse énormément de traces, souvent sans s'en rendre compte. Et on peut tout retrouver sur Internet, même ce qui est effacé. Les policiers et les gendarmes peuvent tout retrouver. Quatrième question.
Est-ce que la première cause de cyberharcèlement est la naïveté ? Vrai ou faux ?
Vrai.
Les enfants ont plus de risques d'être harcelés parce qu'ils peuvent être naïfs et que cela échappe à l'attention de leurs parents. Cinquième question.
Il peut y avoir des conséquences judiciaires si l'on poste des informations intimes sur la victime. Vrai ou faux ?
Vrai.
Le coupable risque un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, d'après Legal Place. Sixième question, vous nous suivez toujours ?
Est-ce que Facebook est le réseau social le plus utilisé pour cyberharceler ? Vrai ou faux ?
Vrai.
En 2022, 45% des jeunes ont été harcelés sur Facebook, mais aussi 42% sur Instagram et 33% sur Snapchat, d'après DigiMindBlog. Dernière question.
Il existe des outils en ligne pour aider les jeunes et les enfants à lutter contre le cyberharcèlement. Vrai ou faux ?
Vrai.
Chaque réseau social a des outils qui permettent de signaler le cyberharcèlement. Il est souvent très simple de bloquer et de signaler du cyberharcèlement. Vous êtes victime ou vous connaissez une victime ? Appelez le 3018.
C'est le numéro d'écoute pour les jeunes, victimes ou témoins de harcèlement ou toute forme de violence sur Internet ou ailleurs. Et depuis peu, c'est aussi une application à télécharger sur le téléphone.
Ah, trop bien ! C'est rassurant de savoir qu'on peut trouver des ressources facilement pour se protéger. Merci Éloane, on espère que ça vous a aidé.
Merci Joline, et merci à tous de votre écoute.
Wendy et Lina ont rencontré deux juristes de l'AVEMA pour parler des conséquences psychologiques du cyberharcèlement.
On les écoute.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre association ?
Je suis Lydie Fernandez, je suis juriste à l'AVEMA, l'association d'aide aux victimes et de médiation dans l'Ain, également appelée France Victimes 01.
Donc moi c'est Anouk Menvaubaudin et je suis également juriste à l'AVEMA.
Notre association est donc rattachée à France Victimes au niveau national, il existe une association par département. La spécificité de l'AVEMA, c'est qu'on a un pôle accompagnement des victimes de toute infraction pénale et un pôle plus rattaché à l'accompagnement des personnes qui peuvent être auteurs d'infractions.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler pour cette association ?
Alors moi, personnellement, c'était pour aider en fait ces personnes-là. Donc ma spécificité, c'est que je travaille autant sur le pôle victime que sur le pôle auteur. Donc j'accompagne les deux catégories de personnes dans leur quotidien et voilà. Et c'était quelque chose qui m'importait pour garder de l'objectivité dans mon travail.
Pour ma part, c'était également en vue de soutenir et d'accompagner les personnes principalement victimes d'infractions. Et le fait qu'on ait une association pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a également des collègues psychologues, éducateurs, assistantes sociales, ça permet vraiment d'avoir une prise en charge globale d'une victime.
Qui sont les personnes que vous aidez dans le cadre du harcèlement des enfants, des adolescents ou des adultes ?
Alors majoritairement, je dirais qu'on reçoit surtout des adolescents et des enfants. Donc dans un premier temps, on les reçoit s'il y a un dépôt de plainte à l'unité médico-judiciaire. Donc c'est un pôle qui se situe à l'hôpital Fléria à Bourg-en-Bresse. Et ensuite, il peut y avoir un accompagnement prolongé, donc avec des juristes comme Lydie et moi, ou avec des psychologues de la VEMA.
Quelles sont les conséquences psychologiques les plus répandues du harcèlement ?
Ça peut être une perte de confiance en soi. Ça peut aller jusqu'à développer une phobie scolaire, certains troubles. On a aussi également parfois des conduites à risque, des problèmes liés à des addictions. Ça arrive même aux plus jeunes d'avoir des addictions à l'alcool, à des stupéfiants, vraiment des mises en danger. Mmh. Et ça peut aller jusqu'à une tentative de suicide, voire pire.
Comment pouvons-nous aider les personnes victimes du harcèlement ?
Pour lutter contre le harcèlement, il faut signaler un maximum. Donc il y a plusieurs dispositifs qui existent. Hein. On peut déjà signaler auprès de l'établissement scolaire de manière anonyme ou non. Et puis on peut aussi s'adresser à des plateformes. Donc il existe la plateforme Pharos qui est créée depuis 2009. Et on peut se servir de ce type de dispositif pour signaler et supprimer les comptes concernés. En tout cas, quand on parle de cyberharcèlement. Il y a aussi le 3018 qu'on peut appeler. On peut les contacter soit par téléphone, mais aussi sur Messenger ou via leur application. Donc il y a vraiment un maximum de dispositifs qui ont été mis en place pour limiter en tout cas les dégâts du harcèlement et du cyberharcèlement.
Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter ?
Alors oui, dans le sens où on a constaté que la personne qui était harcelée avait tendance à s'isoler, à rester seule. Ça peut être aussi si jamais on constate un décrochage scolaire, des absences, si jamais la personne perd l'appétit. Plusieurs symptômes existent pour identifier et même si jamais je pense qu'on a des doutes, il vaut mieux signaler pour rien, il vaut mieux trop en faire que pas assez.
Comment se reconstruire après avoir été harcelée pendant des années ?
Je pense qu'il faut en parler un maximum, en échanger avec les autres et se considérer autant comme victime et ne pas aussi rester dans cette étiquette de victime pour toujours et se dire que de toute façon c'est du passé et que maintenant on peut que se reconstruire pour aller mieux. Donc en parler un maximum et informer aussi.
On remercie Madame Ménévo-Baudin et Madame Fernandez pour leurs explications. Il n'y a pas que dans les classes que l'on parle de harcèlement. En effet, le sujet est largement abordé par les artistes, autant dans la musique que dans des romans ou au cinéma.
D'ailleurs, Wendy et Lola ont sélectionné quelques œuvres pour nous.
Bonjour Lola.
Bonjour Wendy.
Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio B.
Nous sommes des élèves de 4e du collège Yvon Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs.
Nous vous présentons une sélection de chansons et de livres qui parlent de harcèlement.
Lola, tu connais des titres de musique sur le cyberharcèlement ?
Oui, bien sûr. Le cyberharcèlement a inspiré plusieurs artistes, comme Kinvé, avec son titre Petite Émilie.
De quoi ça parle ?
Cette chanson parle d'une collégienne qui subit du harcèlement et des remarques sur son physique depuis qu'elle a 10 ans. Sa situation s'empire avec le cyberharcèlement.
Qu'a-t-elle subi durant son cyberharcèlement ?
Ses camarades l'ont prise en photo, ont montré son ventre qui dépasse et l'ont surnommée « la dégueulasse ».
Kinvé s'est-il inspiré de faits réels ? Pourquoi a-t-il écrit cette chanson ?
Oui, l'artiste s'est inspiré de faits réels. Émilie a été harcelée pendant 2 ans. Elle s'est suicidée en 22 janvier en se jetant par une fenêtre du domicile de son père. Kinvé a écrit cette chanson pour sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. Et toi Wendy, tu connais un titre de chanson sur le cyberharcèlement ?
Oui, il y a Fragile de Soprano.
Et ça raconte quoi ?
C'est également une fille qui se fait harceler et qui subit par la suite du cyberharcèlement. C'est une collégienne et elle est la cible de ses camarades.
Qu'a-t-elle subi durant le cyberharcèlement ?
Pour elle, être aimée, c'est être likée sur les réseaux sociaux. Alors elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie avec des filtres beauté et quelques cœurs sur sa photo. Mais en commentaire, il y a surtout des moqueries, des insultes et des emojis pervers.
Soprano s'est-il inspiré de faits réels ? Pourquoi a-t-il écrit cette chanson ?
Non, il ne s'est pas inspiré de faits réels. Il a écrit cette chanson parce qu'il avait peur pour sa fille qui rentrait au collège. Ok pour les musiques. Côté livre, tu en connais sur le sujet ?
Récemment, j'ai lu Comme des images de Clémentine Beauvais.
De quoi parle ce livre ?
Le livre commence par le suicide de Léopoldine. On retrouve son corps dans la cour du lycée Henri IV. Puis, on découvre progressivement que Léopoldine et Timothée étaient en couple depuis la 4e quand, un jour, elle décide de rompre avec lui pour se mettre avec Aurélien.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Timothée, pour se venger, a envoyé un mail à tout le lycée avec des photos de Léopoldine dénudée.
Tout le lycée ?
Oui, profs, élèves et même les parents. Le lendemain, quand Léopoldine retourne au lycée, tout le monde se moque d'elle et la regarde de travers dans la cour.
C'est une histoire vraie ?
Non. Clémentine Beauvais a écrit ce roman pour avertir les jeunes. Leur dire qu'en un clic, on peut détruire la vie de quelqu'un.
Merci Lola pour cette recommandation.
Merci Wendy.
On vous rappelle les titres dont on a parlé.
Kinvé avec Petite Émilie.
Fragile de Soprano.
Et Comme des images de Clémentine Beauvais.
Merci de votre écoute.
On vous invite à lire sur le sujet.
Oui, d'autant que nous avons eu la chance de rencontrer Cécile Alix, autrice de romans pour la jeunesse. Elle vit à Bourg-en-Bresse.
On écoute tout de suite ses réponses aux questions de Happy et Shine.
Bonjour Cécile Alix.
Bonjour.
Vous avez écrit un roman qui s'appelle 6 contre 1, qui parle de harcèlement. Pourquoi avez-vous écrit sur ce sujet ?
J'ai écrit sur ce sujet parce que moi-même, quand j'avais votre âge, j'ai été harcelée, j'ai subi le harcèlement scolaire. D'autre part, l'éditeur me demandait un roman court sur un sujet fort. Et ce roman est sorti brusquement, sans préméditation. Mais finalement, il couvait depuis très longtemps. Je l'ai écrit quand j'avais 40 ans. J'étais harcelée quand j'avais donc 13-14 ans. Et je pense que ça couvait en moi depuis tout ce temps-là. Donc un besoin de témoigner, peut-être, et d'alerter.
Comment vous êtes venue l'inspiration ?
Eh bien, justement, l'inspiration vient de ma vie personnelle. Mais comme, en tant qu'autrice pour la jeunesse, j'interviens énormément en milieu scolaire, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec les élèves sur cette question. Et donc, je suis pas mal intervenue au collège, au lycée, avant même de décrire 6 contre 1.
Quel sentiment avez-vous ressenti durant l'écriture du livre ?
Un sentiment d'urgence, un sentiment d'exaltation parfois, et puis par moments des larmes. Parce que quand on écrit, on vit la vie de nos personnages, même si Ludo, c'est pas moi, parce que mon histoire n'est pas exactement la sienne, j'étais tellement impliquée dans mon écriture que par moments je ressentais sa douleur, son désespoir, et il m'est arrivé de pleurer pendant l'écriture.
Depuis quand écrivez-vous ?
Depuis que j'ai 7 ans. C'est une grande passion depuis toujours.
Combien d'exemplaires votre livre a-t-il été publié ?
Alors, je ne sais pas exactement, parce que j'ai perdu le compte, mais autour de 60 000.
Avez-vous voulu toujours devenir écrivaine ?
Eh bien, oui. Depuis que je sais que ce métier existe, c'est-à-dire vers 7 ans, je me suis dit, mais c'est vraiment extraordinaire. Il y a des gens dont le métier est de raconter des histoires. Je veux faire ça. Donc c'est vraiment une vocation.
À quel âge avez-vous publié votre premier roman ?
Assez tardivement, parce que moi j'ai 51 ans. Et quand j'étais jeune, écrivaine, autrice, c'était pas un vrai métier. Donc j'ai fait des études, j'ai fait d'autres métiers. J'ai publié mon premier roman, ce qui n'était même pas un roman d'ailleurs, mon premier livre qui était un album vers 30 ans.
Quel message voudriez-vous faire passer aux jeunes au sujet du harcèlement ?
C'est compliqué parce que quand on écrit un livre, on ne pense pas forcément à faire passer un message. Mais après toutes ces discussions avec les jeunes sur ce sujet, évidemment, le message, ça serait de parler aux harcelés en leur disant témoigner, mais quand on est harcelé, on témoigne très rarement. Moi, ma maman, elle a appris que j'avais été harcelée en lisant mon roman que j'écris quand j'avais 40 ans. Donc vous voyez, ce serait plutôt un message qui s'adresse aux témoins des harcèlements. Les personnes qui savent dans une classe, tout le monde sait qui est harcelé et qui harcèle. Dans toutes les classes, les élèves sont au courant. Donc, tous ces élèves qui savent et qui sont donc des témoins, j'aimerais leur dire, eh bien, témoignez. Et il y a des moyens anonymes et faciles de témoigner sans, entre guillemets, balancer. C'est tout simplement, par exemple, d'écrire sur une feuille de papier telle personne de telle classe est harcelée, merci de l'aider, et de glisser cette feuille de papier sans la signer dans le casier d'un professeur, dans la boîte aux lettres du collège, etc. On ne dénonce pas. on alerte, on témoigne, telle personne de telle classe a un problème. Vous voyez ? On ne signe pas, donc on ne risque rien. Et on prévient. Voilà, c'est peut-être ça le message.
Encore merci à l'autrice pour son inspiration. Elle a su transformer une histoire personnelle en force.
Merci à toutes et à tous. On rappelle l'existence du numéro d'urgence. En cas de cyberharcèlement, victime ou témoin, appelez le 3018.
On remercie les intervenants, les financeurs et tous les élèves qui ont participé au projet.
Shaïn,
Lina,
Philippine,
Anna Mathilde,
Naomi,
Anas,
Abby,
Lou,
Laureline,
Honorine,
Wendy,
Eloane,
Lola,
Juline.
Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh.
On vit l'époque du virtuel. Des tutos pour du rimmel, Snapchat, Snapchat. Dis-moi qui est la plus belle pour elle. Être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émotis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et comme elle irréparable.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours.